cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
Félix, bonjour. Parle-nous du Québécois, du seul Québécois indemnisé en vertu du programme d'indemnisation sur la vaccination. Un seul sur une centaine de demandes.
Oui, et c'est un programme que je ne connaissais pas, alors c'est la raison pour laquelle je t'en parle ce matin. Moi qui ai passé près de 6 mois en tournage avec Christian Dubé et ses équipes, à nul endroit j'ai entendu parler de ce programme d'indemnisation pour les victimes de la vaccination. Notez ici le mot victime. Alors ça existe, 20 millions de doses plus tard au Québec, il y a quelqu'un qui a été indemnisé pour des effets secondaires en raison de leur vaccination, de sa vaccination, puisque c'est une personne. Donc, le programme, là, s'appelle le Programme québécois d'indemnisation des victimes d'une vaccination. C'est un programme qui a été mis sur pied il y a très longtemps, ce que je ne savais
1985.
Pas. En 1985. Ben oui, après les vaccins, l'octroi massif de vaccins contre la rougeole, il y a une décision en Cour suprême qui concernait le décès d'une fillette qui a été vaccinée et dont les conséquences ont été la mort. Donc, un micro-cas parmi des millions, mais quand même, c'est bel et bien arrivé. Puis donc, on suggérait aux provinces de mettre en place leur programme. Québec a mis ici en place celui dont on se parle. Et la personne à laquelle on réfère ce matin parmi les 160 demandes, là, c'est un homme qui a eu une encéphalite là quelques jours après avoir reçu le vaccin AstraZeneca. Il s'appelle Donald Poirier. Et voilà, c'est assez intéressant de voir.
Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que la victime, en fait, la femme malheureusement qui est décédée avec un cas de thrombose à la suite de la réception du vaccin AstraZeneca, on s'en rappelle, ça avait fait les manchettes dans le temps. Ben toujours en attente d'une réponse du programme d'indemnisation des victimes de la vaccination, qui suit les mêmes protocoles, disons, ou les mêmes montants d'argent que le programme d'indemnisation de la Société d'assurance automobile du Québec.
Exact. Donc, oui, effectivement, pour la famille de cette femme qui a vécu, c'était terrible, hein, ce que cette famille-là a vécu dans la dignité, je tiens à le souligner. Alors, ce qui est arrivé, en fait, c'est que eux aussi, après le décès de leurs proches, ben ils se sont adressés à ce programme-là, mais sans toutefois décourager, notons-le, la population de se faire vacciner. C'est important, là, le veuf
ils ont été d'une dignité incroyable.
Ouais, exactement. Et moi, j'étais dans le bureau, dans la salle des premiers ministres à Québec, que tu connais peut-être.
Oui.
Où quand Christian Dubé a appelé, en fait, c'est notre caméraman qui était, mais j'ai vu les images ensuite.
Ah, je les ai vues, c'était très touchant.
Ouais. C'était assez touchant d'entendre la conversation entre un ministre de la Santé qui savait bien, au fond, qu'il y aurait dans quelques cas des conséquences à la vaccination, adresser ses condoléances à cet homme-là, puis lui dire avec toute la dignité avec laquelle il a fait ça. Notez que la famille, les enfants de cette femme qui est décédée ne voulaient plus se faire vacciner, bien sûr. C'est Francine Boyer qui est morte, nommons-la quand même, en avril 2021. Ses enfants ne voulaient pas se faire vacciner. Ils avaient plus confiance en la vaccination. Alors maintenant, ben là, on voit qu'on a un programme pour ça, mais c'est un programme qui est lent quand même. Tantôt, j'ai confondu la victime d'encéphalite parce qu'on ne nomme pas la victime d'encéphalite dans le texte du journal de Camille Payan aujourd'hui. La personne qu'on nomme, que j'ai confondu, c'est justement Donald Poirier.
Qui
est en attente d'une réponse. Donc, erreur ici. Donc, 86 en attente d'une décision. Et je ne savais pas que ce programme existait. Alors, c'est une bonne raison de le mentionner.
En parlant de quelqu'un d'autre qui en attend des réponses, je parle de la population du Québec qui attend des réponses un peu plus structurée, structurante, plus convaincante que celle que nous a servi le docteur Arruda hier. Et Félix, je te propose qu'on écoute un extrait du point de presse virtuel qui nous a mené hier.
J'ai l'impression qu'on monte en épingle la situation, puis je veux pas accuser les choses, J'ai pas caché de l'information à la population. Comme directeur de santé publique, en discussion avec la directrice de santé publique du territoire, que je considérais que c'est une information qui devait apparaître mieux documentée dans un autre rapport parce que ça allait soulever beaucoup de questions et, je vous dirais, probablement dévier les messages importants qu'on avait à passer par rapport aux enfants.
Félix, convaincant ou surréaliste?
Non. Ben non, surréaliste. Chronologie de la chose, hier, à cette même antenne et à cette même chronique, on parlait de cette absence de réponse de M. Arruda qui faisait en sorte que toutes les hypothèses étaient possibles et les apparences, justement, et de conflits d'intérêts, mais aussi une apparence de « je m'en foutisme » était présente derrière cette décision d'Horacio Arruda là, de ne pas dévoiler publiquement là, un rapport de biosurveillance de ce document retiré, alors qu'on parlait de cette fonderie à Noranda. D'ailleurs, je veux m'amender. Hein. Hier, j'ai confondu la mine I Am Gold et la fonderie Horn qui appartient à Glencore. Ouais, c'est ça. Donc mentionnons-le là, c'est la journée des excuses là, mais confusion de nom, faudrait pas associer bien sûr I Am Gold à la fonderie Horn, surtout dans ce contexte actuel où vraiment la fonderie est la cible de toutes les critiques mais de toutes les questions aussi. Et justement, revenons donc aux questions. Qu'est-ce que me projette l'idée du commentaire du docteur Arruda dans cette affaire, c'est que ça m'apparaît, en tout cas à la limite, pour le citoyen de Rouyn-Noranda, un manque de responsabilité flagrant. Parce que quand tu parles d'incidence de cancer du poumon, puis que tu entends un docteur, l'ancien directeur national de la santé publique dire que lui, ben, il préférait attendre pour dévoiler ça, mais tu te dis, mais je suis lésé. Moi, je m'estimerais lésé à être un citoyen. Tu vois, c'est ça le fond de ma réflexion.
Mais Félix, ça fait 2 ans, toujours pas de diffusion des mêmes données qu'il a retenues pour soi-disant les avoir de manière plus détaillée. Moi, je trouve que le point de presse d'hier était même plus grave que le manque d'informations avait avant.
Ah, ben c'est exactement où je m'en allais. Quand tu apprends que des bébés naissent plus petits que sur le reste du territoire québécois, que les maladies pulmonaires chroniques sont beaucoup plus élevées, ça augmente l'incidence du cancer du poumon, puis l'espérance de vie est plus basse qu'ailleurs au Québec, et tu entends ce délai de 2 ans, et tu parles de ce document retiré, et tu parles que la santé publique le savait depuis septembre 2019, que le taux de mortalité lié au cancer était plus élevé là-bas. Alors moi, écoute, tu mets vraiment le doigt dessus ce matin, les explications, puis je m'attendais vraiment pas à ça. Je me suis dit qu'il doit y avoir une raison. C'est une raison que l'on comprendra, puis qui tombe sous le sens. Mais
ça va finir par venir. On se disait toujours, ça va finir par venir, ça va finir par venir, puis non, le point de presse a terminé, puis on avait plus de questions dans notre tête.
Boum, c'est pire. Oui,
c'est pire. Félix, je te souhaite une excellente fête nationale, une excellente longue fin de semaine, et on va avoir encore des sujets très intéressants à discuter dès lundi.
J'en suis sûr, je te parlerai, je serai en Europe puis en Afrique du Nord la semaine prochaine. On se parlera de ce coin de pays si toutefois je me rends et si mes valises se rendent et tout. Alors, souhaite-moi bonne chance.
Ça, c'est une autre chose. Je te souhaite bonne chance et j'espère que ça va pas être trop exigeant pour toi dans les aéroports parce qu'à ce qui paraît, même dans les aéroports, c'est pas facile.
On se croise les doigts. Bye. À la semaine prochaine. Bonne Saint-Jean aussi à toi. Bye.
Alexandre Moranville, on a tellement de sujets d'actualité aujourd'hui.
Ça bardasse, hein?
Ça bardasse. On pense que l'été, c'est calme, mais c'est pas si calme que ça.
Moi, puis on trouve pas que c'est l'été tout court non plus en regardant dehors en ce moment.
Faut pas regarder dehors.
Mais là, moi, j'arrive pour réanimer une émission d'été, moi, cet été, justement. Puis c'est pas l'été jamais.
Pour l'automne.
C'est vrai, ça, par contre. C'est une pratique.
Faut le voir de la bonne manière, Alexandre.
Je veux pas t'encourager là-dedans. Je suis tellement triste. Hier, Yasmine, as-tu vu ça? Pis ça reparaît aujourd'hui dans les nouvelles, mais comme hier, je n'écoutais pas les épreuves du championnat du monde de nage synchronisée à Budapest. Je n'avais pas vu cela. Mais il y a une des nageuses de l'équipe américaine de nage artistique synchronisée qui s'est évanouie en plein milieu de son épreuve dans le bassin.
Et qui a commencé à couler.
Qui a commencé à couler vers le fond du bassin. Et l'entraîneuse de l'équipe américaine, elle, ben, a fait des signes partout en disant « Hey, allô, il faut aller la sauver. » Il n'y a pas un sauveteur, il a allumé. On ne sait pas pourquoi ils sont là, d'ailleurs. Et elle a plongé elle-même dans le fond du bassin, tout habillée en short, en camisole, pour sortir, justement, sa nageuse, là, Anita Alvarez, qui respirait plus. Il y a de l'eau qui est rentrée dans ses poumons. Heureusement, il y aura pas là de séquelles là, graves de tout ça. Elle a été emportée là au centre hospitalier, mais on a constaté que c'était vraiment de l'eau dans ses poumons. Elle a fait un malaise à la suite d'efforts physiques intenses pendant son épreuve. Mais donc, ça quand même, c'est rare que ça arrive dans des épreuves comme ça, là, un coup d'éclat comme ça où l'entraîneuse doit sauter elle-même.
Mais on s'entend qu'il y a du nageur au pied carré quand on parle des championnats du monde de nage artistique, là?
C'est, ouais, au moins, hein. S'il y avait un endroit dans lequel je serais confortable, disons, de m'évanouir dans le fond de l'eau, ce serait avec,
Je te le souhaite pas.
Ouais, parce que elle-même, là, cette entraîneuse-là, elle est quadruple médaille olympique, hein, quand même. Alors,
C'est mieux que les maîtres nageurs et les sauveteurs dans les pataugeoires qui est à peu près à Montréal, là, tu sais.
Voilà. Ben, surtout qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, hein, de ces maîtres nageurs.
On peut devenir maître nageur et sauveteur gratuitement. Il y a tellement une pénurie de main-d'œuvre.
Ça donne le goût, quand même. Pour, tu sais, suivre la formation juste pour être certain d'être bien en forme. Ça te fait faire de l'exercice. Et en plus, tu sais comment sauver des vies. J'encourage les gens à aller faire ça cet été.
C'est le fun. C'est très le fun, honnêtement.
Attendez qu'il fasse beau, par contre.
Oui. Mais tu sais, comme une journée comme aujourd'hui, c'est une journée de formation, c'est pas une journée de surveillance.
T'as pas le beau maillot rouge, Baywatch style, tu cours sur le bord de la piscine, on ralentit.
Avec ta crème solaire sur le nez.
Ouais, aujourd'hui, c'est avec le parapluie, c'est pas mal moins
C'est pas mal moins sexy. Alexandre Morinville, je te cède l'antenne à tous nos auditeurs. Bonne fête nationale, bon long week-end. On se retrouve lundi et on entamera une belle semaine avant la fête du Canada.
Salut.